France Culture.
Talmudique.
Madeleine. C'était un dimanche matin comme un autre, à 9h, un jour de pluie.
Sophie. Au début, c'était juste pour être avec le pater. J'aurais préféré que le lieu de la réconciliation soit Disneyland, mais va pour Auschwitz.
José. On a fait des progrès depuis 50 ans. Moi, le petit-fils de déporté, je téléphone d'Auschwitz pour donner des nouvelles à ma mère. Je t'appelle d'Auschwitz, je vis à Birkenau et je reviens. C'est ça le truc. Je reviens.
Il y a des lieux que l'histoire transforme en questions sur le sens de l'homme et de la vie, sur le mensonge et la vérité, sur la frontière entre réalité et fiction, sur la mémoire et l'avenir. Auschwitz est l'un de ces lieux, peut-être le lieu par excellence. Mais comment l'aborder ? Comment visiter la mémoire et en construire le souvenir, la compréhension et la transmission ? Comment, engagé au cœur d'un travail de mémoire et d'histoire, aborder ce qui reste ? Comment aborder les traces de ce lieu et de cet événement, aujourd'hui quand l'ère des témoins est en train de disparaître ? Que peut apporter le fait de se rendre à Auschwitz, de fouler la neige qui le recouvre en hiver et d'en sentir la pesante chaleur qui l'enveloppe en été ? Que peut apporter le fait de voir qu'il n'y a rien à voir, que tout ce qui est montrable a déjà été montré, et que dire du danger de la déception que l'on peut ressentir et qui peut nous éloigner au lieu de nous rapprocher de l'urgence de continuer à comprendre, à raconter et à transmettre ? Que dire de ce tourisme qui invite à visiter les vestiges et les musées des camps de concentration et d'extermination des ghettos et des shtetls disparus ? Et quand on choisit de s'y rendre, comment ensuite en rendre compte ? Par quels moyens partager l'expérience de ce voyage ? Voilà quelques-unes des questions qui se sont posées à Yael Uzan-Holweck et Laurent Weinberg dans un livre intitulé « Un dimanche à Auschwitz » paru une première fois en 2003 et qui vient de reparaître aux éditions de l'Aube. Yael Uzan-Holweck et Laurent Weinberg, bonjour.
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 Commençons par le commencement. Nous sommes le dimanche 18 mars 2001. 150 personnes prennent l'avion à destination de Cracovie pour faire un aller-retour dans la journée sur le site des camps d'Auschwitz 1 et Auschwitz 2 Birkenau. Vous ne vous connaissiez pas alors. Comment s'est passée cette journée, ce dimanche à Auschwitz ? Quelles étaient vos motivations professionnelles et personnelles respectives ? Pourquoi et comment aviez-vous l'un et l'autre choisi de faire ce voyage ? Yael Uzan-Holweck.
Alors moi je venais accompagnée de ma maman qui, peu de temps auparavant, avait été sollicitée par Klarsfeld dans la mesure où avaient été retrouvées des lettres dans la soupente de la synagogue de Vichy. Des lettres qui racontaient un peu le périple de ma grand-mère entre 42 et 44. Et elle me demandait, en tant qu'aînée, troisième génération, d'aller à Auschwitz, de l'accompagner. Je me suis pas sentie immédiatement de l'accompagner seule, mais d'essayer de trouver un groupe avec lequel nous pouvions cheminer, elle et moi, de façon plus sécure.
Ça veut dire que votre grand-mère a été déportée ?
Oui, ma grand-mère a été déportée avec quatre de ses enfants, et quatre autres ont été des enfants cachés, dont ma mère.
Et ceux qui ont été déportés sont revenus ?
Non, ne sont pas revenus.
Laurent Weinberg ?
Je partais à Auschwitz seul, avec mon appareil photo, et avec la démarche d'aller voir. Je voulais voir ce qu'on ne peut évidemment pas voir. À côté de mon cheminement photographique, j'étais professeur d'histoire-géographie. Et le rapport à l'histoire, le rapport au temps, était quelque chose qui m'animait puissamment. Et j'avais été, comme d'autres, sidéré de voir le nom d'Oswiecim sur un atlas de l'Europe centrale de la Pologne. Que ce nom soit le nom d'un lieu au présent et le lieu d'Auschwitz dans le passé, était quelque chose que je n'arrivais pas à concevoir et je voulais m'en rapprocher. Si j'ose dire, comme quand on va à un enterrement et que peut-être on se penche au seuil du caveau qui est ouvert et qu'on jette un œil, on n'ose pas regarder, on regarde et il n'y a rien à voir, sinon quelque chose qui nous échappe de façon vertigineuse.
Et est-ce que vous avez personnellement eu de la famille qui est en lien avec le camp d'Auschwitz ou d'autres camps?
Mes quatre grands-parents étaient en France et se sont cachés et ont eu de la chance. Et donc mes parents ont pu naître. Et moi j'ai pu me retrouver là. Je crois qu'une arrière-grand-mère a été arrêtée, emmenée à Drancy, puis déportée. Son nom figure sur le mur au mémorial de la Shoah. Mais ce avec quoi j'ai grandi, c'est l'onde de choc et l'idée que ça aurait pu être moi. Donc il y avait une sorte d'effroi dont je me suis senti dépositaire.
Vous êtes dans un groupe, on est en 2001. Quel était à l'époque le profil des participants et leur motivation, Yaluzan Olvek?
Au démarrage, on ne connaissait pas le profil des participants. On était au milieu d'une centaine de personnes. J'étais donc avec ma maman, mais surtout j'avais aussi repéré un photographe dans l'autobus, puis en arrivant sur place. Et en fait, mon état d'esprit à ce moment-là était d'être dans une forme de résistance, puisque j'avais finalement été élevée à la fois dans cette histoire et complètement à l'extérieur. Ma maman est née en 40, a été orpheline, donc ne nous a pas véritablement pu, enfin n'a pas pu raconter, ni même réaliser ce qui lui était arrivé. Et j'ai été le réceptacle de ce nom, non pas de ce non-dit, mais de ce flou complet. Donc j'y allais avec, en me disant, bon, finalement ces lettres réapparaissent, toute mon histoire est complètement chahutée au moment où cette découverte se fait. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que moi, troisième génération, j'ai à voir avec ce lieu? Et donc je finis, quand je trouve le groupe, par me dire, mais oui, quand même, j'y vais, mais avec ce sentiment de devoir me protéger d'une part, mais surtout de ne pas être forcément dans l'évidence d'accueillir ce lieu comme ça, voilà. Donc j'y vais avec une forme d'incapacité réelle, profonde, à voir. Et évidemment, un photographe sur mon chemin, ça m'a totalement et immédiatement intéressée. Je me suis approchée de lui régulièrement. J'ai regardé comment il regardait, ce qu'il regardait, l'intensité qui était mise à l'intérieur de son regard. Tout ça m'interrogeait et c'était grâce à lui que je pouvais un peu voir. En tout cas, je le voyais lui. Puis je voyais les gens qui marchaient. Je marchais à leur côté et j'étais dans une interrogation tellement profonde, que je leur demandais à eux aussi, mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez de ce voyage? Qu'est-ce que vous faites là? Puisque je ne savais pas véritablement pourquoi moi j'étais là. Donc au travers de ce qu'ils me racontaient, j'essayais de comprendre pour moi-même. Donc ces gens-là, ils étaient très différents, enfin c'était tout un chacun. C'était des hommes, des femmes, des couples, des familles. C'est seulement après qu'on a su qui ils étaient véritablement. En tout cas, ils venaient tous ensemble par l'amicale des anciens déportés d'Auschwitz. Et c'était ça qui nous réunissait, a priori, au départ. Après, on a pu aller plus loin.
Le photographe en question que vous avez repéré dans l'autobus et ensuite que vous avez suivi, c'est Laurent Weinberg qui est avec nous aujourd'hui. Vous avez dit, Yaël, que vous suiviez son regard. Laurent, qu'est-ce que vous essayez de voir? Puisque en fait, la question du regard est quand même une question absolument centrale dans ces voyages, en tout cas dans ce voyage mémoriel.
Je ne savais pas ce que je verrais, je ne savais pas ce que je cherchais à voir, et en même temps, je savais que je ne voulais pas faire des photos esthétisantes. Venir avec l'appareil photo, c'était pour moi à la fois un prétexte, une protection, une raison d'être là, et en même temps, je me sentais horriblement mal à l'aise, tout à fait déplacé, complètement voyeur en étant présent et voyeur en amenant mon appareil photo. Et donc, la seule réponse que j'ai trouvée, c'était de photographier les gens autour de moi. Non pas de photographier les barbelés, mais de photographier un homme qui regarde les barbelés. Avec cet écho à mon propre vertige, qu'est-ce qu'on voit, comment on voit, comment on regarde, qu'est-ce qu'on a dans la tête par rapport aux images qui sont devant nous, comment tout cela résonne, se construit, etc. En même temps, je prenais beaucoup de photos et c'est après que se fait le choix des photos qui ont du sens ou de celles qui n'en ont pas. C'était de l'argentique à l'époque, donc il n'y avait pas l'immédiateté du résultat. Il y avait cette idée, on voit quelque chose. José, dans le livre, dit à un moment à propos des ruines, on voit un truc, on ne voit rien. Moi, je ne savais pas très bien ce que je voyais. Je prenais des photos, non pas en aveugle, mais dans une sorte de pari. Je ne parlais pas aux autres, j'avais la gorge nouée. Ça me semblait encore plus indélicat d'aller
parler avec les autres. Et quand Yaël s'approchait, je n'ai plus de souvenirs très précis, mais je sais que c'était une faiseuse de liens et que sa quête, sa soif de parole était aussi une aide pour moi.
Yaël et Laurent, à un certain moment, vous rencontrez plus précisément et vous décidez de faire ce livre, Un dimanche à Auschwitz, une alternance de photos et de micro-récits qui sont le résultat d'interviews que vous avez faites de 20 personnes que vous avez choisies, ou peut-être pas choisies. Racontez-nous, Yaël Uzan-Holweck, comment s'est fait ce panel d'interviews que vous avez réussi à faire?
Forte de tout ce que j'avais entendu en marchant auprès des personnes que je croisais en arpentant et Auschwitz et Birkenau, j'avais tellement été dans une surprise de la quête qui animait chacun et des paroles qui m'étaient transmises avec cette seule question « Que faites-vous là ?» que effectivement, à la fin de la journée, j'ai proposé à Laurent que nous nous rencontrions. Et c'est ce qu'on a fait. Et qu'ensemble, on regarde les photos et qu'on réfléchisse ensemble. On a senti qu'il y avait une matière incroyable, qu'on avait envie de la partager, de la travailler. On a sollicité par une lettre envoyée aux 100 personnes qui étaient avec nous à l'association donc de l'Amicale des anciens déportés d'Auschwitz, la proposition qui était de faire éventuellement un ouvrage. Et à qui voulait, on proposait une interview. 20 personnes nous ont répondu spontanément. Il se trouve que dans ces 20 personnes, 10 personnes sont juives et les autres non. Que là, on avait à la fois des professeurs d'histoire, francs-maçons, rugbyman, familles sur 4 générations, des gens comme vous et moi qui avaient besoin de comprendre. Et que ces interviews ont été pour nous une surprise aussi importante que cette journée, en tout cas dans la continuité de cette journée. Une intensité incroyable, des interviews qui pouvaient durer 3 heures, une proximité entre nous et eux, une sincérité immédiate. Nous étions parmi eux, et c'est pour cela qu'ils nous confiaient tout ce qu'ils nous confiaient. Nous étions des quidam. Et à la suite du recueil de ces interviews que nous avons transcrits mot à mot, que nous avons ensuite soumis pour relecture à chacun d'eux, avec leur autorisation pour utiliser leurs propos et construire quelque chose avec, on s'est dit, c'est pas possible de faire autrement que de trouver le moyen de créer ce livre. La confidence avait été tellement importante et on avait recueilli leur mémoire.
Et vous avez recueilli leur mémoire et vous leur avez aussi montré un choix de photos pour qu'ils réagissent après chaque interview. Comment s'est passée cette relation entre le récit, leur récit et les photos? Est-ce que il y a eu encore des surprises que vous avez eues en leur montrant ces photos et en écoutant leur réaction, Laurent Weinberg?
C'était un pacte de confiance qui se nouait sur la base d'une expérience commune et sur la base d'un entretien d'une intimité incroyable. Leurs réactions, parfois, nous les avons conservées dans les entretiens. Elles n'étaient pas les mêmes et elles confirmaient finalement l'intuition de Yaël puis la nôtre que de cette diversité, de cette pluralité de cheminement, de ressenti, il y avait quelque chose à faire, et quelque chose à faire au-delà de nous deux. Autrement dit, quand on s'est revus, après le voyage, très vite s'est imposé ce constat. Au-delà de nos deux expériences, l'intensité qui nous avait frappés, qui n'était pas la même, pour Yaël, la vitalité partagée, et pour moi, ce silence et cette cécité, ça nous obligeait à ouvrir les portes du questionnement. Et donc, à la fin de ces entretiens, qui étaient des expériences inouïes, humaines, le fait de leur montrer les photos, c'était, on va pas dire un remerciement, mais c'était un partage dans l'autre sens. Et c'était une façon aussi de proposer certaines images par rapport à ce que eux avaient pu nous dire.
Et si vous deviez retenir une photo parmi toutes les photos que vous avez montrées et qui sont dans le livre, laquelle vous nous proposeriez aujourd'hui? Je pense que toutes les photos sont importantes, mais sur un pied, si on peut dire, comme on dit dans le Talmud.
Si vous n'aviez pas demandé à choisir une photo dans le livre, j'en aurais proposé une qui n'est pas dans le livre et qui est une de la famille que nous avons interviewée, des 4 femmes de 4 générations, Alicia 14 ans, sa mère, sa grand-mère Francine, et son arrière-grand-mère Claire, veuve de Raymond, déportée dans la vallée des Veuves, dans les Vosges, entretien d'une après-midi entière où l'une après l'autre ont accepté de partager leur histoire. Elles étaient venues à trois, juste Stella n'était pas venue, et donc j'ai pu faire une photo du profil de l'arrière-grand-mère et des trois femmes assises au fond. Bon, voilà. Alors, s'il faut choisir une photo dans le livre, je choisirai celle qui s'est retrouvée en couverture. Cette petite fille qui court devant les rails de Birkenau, qui est une photo un petit peu floue. La petite fille porte une jupe, des nattes. Et pour moi, le trouble infini de cette photo renvoie au cœur de mon rapport à l'image et de mon rapport au temps. Cette photo, j'ai encore vérifié les négatifs hier soir pour être bien sûr que c'était moi qui l'avais faite, parce que je n'avais pas le souvenir précis d'avoir appuyé sur le déclencheur à ce moment-là. Mais cette photo, j'ai l'impression qu'elle aurait pu être faite plusieurs décennies avant, qu'elle n'a pas d'âge en quelque sorte, et en même temps, vu le lieu, elle ne peut pas être une photo d'autrefois. Et donc j'aime beaucoup ce vertige du temps qui se résume dans une image.
Yaël, quel texte, quel micro-récit aimeriez-vous nous lire accompagnant l'une des photos de ce livre et nous expliquer pourquoi vous choisiriez ces micro-récits?
J'aime évidemment toute cette construction faite avec Laurent, mot après mot, virgule après virgule, respiration après respiration. Ces choix que nous avons dû opérer à l'intérieur d'interviews aussi, d'interviews fleuves incroyables. C'est aussi les silences qu'il y a entre tous ces micro-récits, comme vous dites, qui sont importants. C'est-à-dire qu'en fait, je marchais et que j'ai eu besoin, quand j'étais sur le lieu, ce qui m'est resté dans l'oreille et qui a fait la construction de ce livre, c'est la diversité des propos de chacun et c'est le fait que ça se cognait, que d'une personne à l'autre, d'un couple à l'autre, on me disait l'inverse ou on me disait tellement autre chose que j'étais bouleversée de me dire « Ah mais oui, donc on peut ressentir tout ça à Auschwitz, on peut avoir ces différences de perception. » Et oui, la construction est née de cette coexistence entre les uns et les autres, hasardeuse sur le lieu, et les choix des textes ont été faits dans ce sens-là. À Patricia.
Il y avait des arbres ?
Oui. Il n'y avait pas d'arbres. Pas d'oiseaux. Je ne sais plus. Je revois les briques, l'herbe et des branches mortes. Peut-être pas. Mais si, il y avait des arbres, immenses, partout. Oui. C'est bien ça, non ? Tout était tellement uniforme. L'uniformité dans la désolation. À se taper la tête contre les murs.
En vous écoutant, je ressens ce que j'ai ressenti à la lecture du livre, que cela pourrait être une pièce de théâtre. Alors, bien évidemment, c'est toujours très compliqué, parce que comme vous avez dit, Laurent Weinberg, vous avez cherché à ne pas faire des photos esthétisantes. Si on parle de théâtre, ça risquerait de nous faire basculer dans une dimension esthétique, dans une dimension artistique. Et pourtant, Yaël Uzan-Holweck, la question du théâtre pour la transmission est quelque chose d'absolument important pour vous.
Oui, je peux bien imaginer d'ailleurs... Comme je vous disais, dans mon oreille, dans notre oreille, les textes ont été très présents dans leur oralité. Hein, il y avait des sons, des sonorités, des réparties comme ça qui pouvaient se faire en le choisissant. Et du coup, oui, sur un plateau, je pense que ça serait, il y aurait une sobriété à la mise en scène tout à fait intéressante à trouver, avec simplement des gens qui disent ces phrases et puis en les photos qui existent d'une façon ou d'une autre. Et je pense que, cette approche, qui est une approche sensible de la mémoire, qui passe par les ressentis des personnes, leurs questions, leurs interrogations profondes, le rapport à là où ils en sont dans leur vie à ce moment-là, fait qu'il y a tout à l'heure Laurent disait une vitalité, oui, et j'ai eu envie même d'aller jusqu'à dire un désir de mémoire qui animait ces personnes et qui pourrait être rendu avec grande simplicité, d'une façon théâtrale, qui permettrait aux uns et aux autres d'entendre, de sentir aussi, comme s'ils étaient parmi ces gens-là, dans ce voyage-là, qui a eu lieu en 2001 et qui, pour autant aujourd'hui, à des échos qui sont toujours aussi prégnants et contemporains. Voilà, les paroles ne nous semblent pas vieillies, elles ont toute leur place. Donc d'entendre, de sentir, c'est partagé. Et ensuite, ça permet évidemment, une fois que la sensibilité à cette mémoire est un peu sollicitée, d'aller vers des questions ensemble. Le relais avec les professeurs d'histoire, le relais sur le travail de mémoire et sur le devoir de mémoire est possible, passant par cette étape-là, peut-être plus facilement. J'ai vu, il y a à peine hier ou avant-hier, un film sur France 2 Télévisions qui s'appelait « Des survivants racontent » et j'ai entendu Simone Veil dire elle-même, ça m'a beaucoup surprise, je ne savais pas qu'elle avait effectivement été dans ce sens, que le devoir de mémoire lui est insupportable. Alors, et qu'elle préférait à ce terme-là le besoin de mémoire. J'ai été très touchée et je me suis dit oui, elle avait ça en elle, ce besoin de mémoire. Et moi, troisième génération, j'ai eu le désir de mémoire. Et avec nous, toutes les personnes qui ont parlé. Pour autant, encore il y a peu, une jeune fille d'une trentaine d'années a répondu à ce désir de mémoire en disant aujourd'hui, peut-être que le devoir de mémoire est à mettre aussi vraiment, vraiment en avant, pour des tas de raisons que nous savons.
En 2016, plus de 2 millions de visiteurs ont arpenté les lieux.
Tout le monde, bien sûr, arrive avec l'idée qu'il vient dans un endroit très, très spécial, qui va changer sa vie. Et quand la première chose que vous voyez, ce sont tous ces gens qui font la queue pour pouvoir entrer dans le camp, et qu'ensuite vous voyez le stand à pizza en face, et puis ces filles qui font du business et racolent les voitures pour les parkings concurrents. Si vous n'avez pas une forte conscience que ce que vous faites est important, je pense que vous pouvez aussi bien laisser tomber.
Pour moi, la notion du musée est insupportable. On ne peut pas appeler musée un lieu qui a conduit à tellement de morts. À moi, ils vont me demander de l'argent pour que je rentre là. À moi, ils vont m'interdire quelque chose. Oh non. Mais moi, là-bas, je suis chez moi parce que j'y ai laissé quelque chose pour toujours.
Que faire d'Auschwitz? Quel sens, quelle vocation lui donner? Fallait-il en faire un musée? Fallait-il le sanctuariser? Fallait-il l'abandonner? Ces questions sont au cœur d'une guerre des mémoires qui dure depuis 70 ans, depuis que le monde a découvert Auschwitz.
On vient d'écouter un extrait du film de Jonathan Ayoun intitulé « Sauver Auschwitz ». Il date de 2016. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans? Et je peux dire, qu'est-ce qui a changé en 20 ans, puisque vous avez décidé de rééditer ce livre aujourd'hui, le voyage que vous avez fait et dont nous parlons est de 2001. Le fait que nous ne soyons plus dans le même monde technologique, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas alors, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le fait que Facebook date de 2004 et Twitter de 2006, et de plus, le contexte géopolitique est totalement différent, Laurent Weinberg?
Les questionnements changent peut-être de nature, mais pas de fond. C'est toujours la question de notre présence sur le lieu, de ce qu'on y ressent, de ce qu'on en fait, et du partage. D'ailleurs, du partage, qu'on aille ou non sur le lieu, qu'on se sente ou non autorisé à, ou le besoin de, ou le prétexte pour. Et ce qui nous a beaucoup frappé, il y a un an, on a fait une rencontre, et les réactions des gens qui étaient là, de tous âges, étaient aussi fortes qu'à la sortie du livre. Et donc l'actualité du propos et de la démarche nous a semblé justifié de tenter la réédition, et les éditions de l'Aube ont généreusement accepté de se réengager. Et les rencontres que nous faisons depuis, avec une projection lecture puis des échanges, confirment la force de tous ces questionnements qui n'ont pas de réponse, qui sont sans fin, et qui, heureusement, sont sans fin, parce que, à notre sens, c'est l'existence de ces questionnements qui montre que la mémoire continue à vivre en se transformant de génération en génération. Nous n'avions pas de réponse à apporter à travers ce livre en 2001, nous n'en avons toujours pas, les questionnements sont autres, ils évoluent, mais ils restent une sorte de moteur.
Alors, il y a une question qui émerge avec force à la lecture de votre livre. Vous êtes, et vous avez été tous les deux enseignants, en tout cas, vous êtes dans la question de la transmission, et vous êtes aujourd'hui cadre dans le monde éducatif, comme on dit. Que penser de ces voyages à Auschwitz? Que penser de ce que certains appellent tourisme mémoriel? Et que penser de ces pèlerinages en milieu scolaire? Aujourd'hui, il y a de nombreuses classes qui vont faire ce voyage. Est-ce que c'est une expérience qu'il faut continuer à encourager? Ou faut-il penser la mémoire et l'histoire de manière différente, Yael Uzan-Holweck?
Pour appréhender l'histoire, et d'autant plus avec les réseaux sociaux et l'urgence actuelle, plus que jamais, la réflexion et l'histoire sont au cœur de ce qui est à apporter à la jeune génération. Effectivement, il y a comment y accéder. Alors, cette approche, ce livre, et cette approche surtout, ce protocole qui est faire partie d'eux et écouter ce qui se dit sur le lieu et en faire quelque chose, me semble une approche pédagogique possible. Et il y a plein de professeurs qui déjà s'y lancent et font des choses merveilleuses avec tout ça. Je pense qu'il y a, ne serait-ce que par l'utilisation des paroles qui sont dans ce livre, il peut y avoir des projets qui sont à inventer, lire ces textes, se les approprier, faire soi-même des interviews sur le lieu et utiliser des paroles d'interview pour travailler en classe, être dans une oralité avec ces textes, passer par le sensible en fait, pour aller ensuite vers l'histoire.
Laurent Weinberg.
Je ne sais pas s'il y a une injonction à aller à Auschwitz ou sur un lieu de mémoire, mais il y a deux choses. Il y a la démarche de la création et de l'expression artistique, et qui n'a cessé de se réinventer et d'évoluer depuis 20 ans. Les films, les romans, toutes les formes d'expression artistique continue à naître. Autrement dit, des artistes, génération après génération, ont besoin de trouver leur chemin pour dire leur rapport avec Auschwitz. Ensuite, pédagogiquement, ça peut se construire avec ou sans un déplacement sur le lieu, sur un lieu de mémoire, quel qu'il soit. Mais pour que ça fasse sens, à mon avis, pour des élèves, ça demande en effet un travail d'appropriation et qui ne soit pas que de l'ordre de la connaissance, même si on est dans une démarche pédagogique, donc, qui est structurée par la connaissance. Mais pour toucher les élèves, la connaissance ne peut pas être la seule entrée. Et la créativité des enseignants, la rencontre avec des témoins qui peuvent être des enfants cachés, qui désormais prennent le relais des rescapés, ça peut être une approche. Mettre les élèves en activité, questionner leur rapport sensible à tel ou tel sujet, tel ou tel lieu, par rapport à leur propre histoire familiale, qu'elle soit ou non liée à la Seconde Guerre mondiale, ça peut déclencher des échos. Et donc, du coup, par association, par capillarité, les rendre réceptifs à ces questions-là.
J'aime beaucoup cette phrase de Michel-Ange que j'aimerais que vous commentiez l'un et l'autre. « Dieu a donné une sœur au souvenir et il l'a appelée Espérance. » Yael Uzan-Holweck, une façon de vous poser la question, et maintenant, vous en êtes et...
J'avoue que je ne suis pas pleine d'espérance actuellement. Je ne peux m'accrocher à l'espérance qu'en parlant de la dynamique intérieure qui nous dépasse et qui est que quoi qu'il se passe de génération en génération, quelque chose persiste, continue d'être là au fond de nous de ces questions, et que c'est la question sur les questions qui permet de rester dans, pour moi, dans l'espérance. Partir des questions, maintenir les questions, se les partager, s'en parler.
Laurent Weinberg.
Je veux dire que l'espérance, c'est être dans quelque chose qui désormais pourrait s'apparenter à une forme de résistance. La photo argentique vers laquelle je reviens d'ailleurs depuis peu, après l'avoir délaissée, à quelque chose de tellement décalé aujourd'hui qu'elle pourrait être une forme de résistance contre d'autres formes d'expression dans les arts visuels. Le fait de partager ce travail que nous avons fait est aussi de l'ordre de la résistance, c'est-à-dire d'une contribution extrêmement modeste, toute petite, à ce processus de transmission, et donc reposant sur la conviction que cela a du sens, que cela peut nourrir le cheminement des uns et des autres, et que l'humanité douloureuse ou en éveil qui a été partagée avec nous par ces visiteurs, elle peut aussi continuer à circuler et à animer de façon moins douloureuse, mais non moins vive, d'autres générations d'individus, de lecteurs, de spectateurs.
À Patricia, à la fin de l'entretien.
Ça va ?
Oui, oui, très bien. Je vais très bien. Je pourrais très bien aller danser maintenant. En plus, pour moi, c'est fini. C'est fini puisque ça ne s'arrête jamais.
Merci à Luzan Holweck, merci Laurent Weinberg pour cette conversation passionnante et importante. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Un dimanche à Auschwitz, c'est aux éditions de l'Aube, un livre beau et inspirant où vous avez réussi à tresser le fil des regards et des paroles pour transformer un lieu de mémoire en mémorial, un lieu où la mémoire se travaille et se partage. Merci encore.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Claire Levasseur, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Koltouv, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.